portrait de femme de notre matrimoine. Cette émission donc hebdomadaire chaque mardi à 9h15 avec Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Odile, bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs de Fréquence Mistral. Aujourd'hui, nous passons du 17e siècle où nous étions la semaine dernière au 20e siècle, 21e siècle même, avec le portrait de Gisèle Halimi, l'avocate révoltée, qui est notre contemporaine, car elle est décédée le 28 juillet 2020, récemment, à 93 ans. Mais avec elle, nous pouvons prétendre aborder le continent africain, puisqu'elle est née Zeïza Gisèle Élise Taïeb en Tunisie, à Tunis même, dans une famille juive pratiquante modeste, et puisqu'elle a conservé la double nationalité tunisienne et française. Enfant, Gisèle est marquée par la déception de ses parents à sa naissance, car ceux-ci espéraient un garçon et le lui ont fait savoir. Sa mère marqua toujours sa préférence pour ses fils, mais son père l'aima quand même, bien qu'elle fût une fille. Elle est révoltée contre l'obligation qui lui est faite en tant que fille de servir ses frères à table, de faire leur lit, etc. À 13 ans, elle fait une grève de la faim pour ne plus avoir à faire cela. Au bout de 3 jours, ses parents cèdent. Donc, très jeune, elle montre un caractère fort, rebelle aux coutumes injustes qui commandent aux filles de servir les garçons, aux femmes de servir les hommes. Cette situation provoque en elle, je cite, « une rage, une force sauvage, une volonté de se sauver ». À 15 ans, elle refusera un mariage arrangé. Après son bac obtenu à Tunis, elle est autorisée à suivre des études en France. Elle obtient ainsi son diplôme d'avocate en 1948, puis en 1949, elle épouse Paul Halimi, fonctionnaire au ministère de l'Agriculture, et prend le nom de Gisèle Halimi, qu'elle gardera toute sa vie, même après son divorce en 1959 et son remariage. Dans les années 1950, elle milite pour l'indépendance de la Tunisie et de l'Algérie et pour cela est menacée de mort. En 1960, elle défend la militante algérienne Djamila Boupacha, B-O-U-P-A-C-H-A, qui à 23 ans a été violée et torturée par les soldats français. Elle plaide l'invalidité d'aveux obtenus sous la torture et n'hésite pas à porter plainte contre un général d'armée et le ministre des armées de l'époque, Pierre Messmer. Pour la première fois, des médecins gynécologues sont convoqués au procès. Le dossier est très médiatisé. Aussi, Djamila Boupacha, condamnée à mort en France le 28 juin 1961, est finalement amnistiée et libérée le 21 avril 1962. Rappelons encore une fois que pour les soldats de toutes les nationalités, je dis bien de toutes les nationalités, hier comme aujourd'hui, les femmes sont du butin de guerre, et ceci, quelle que soit la situation, c'est-à-dire que ces soldats arrivent en envahisseurs ou en libérateurs. Dans leur esprit, fortement imprégné de la culture, de la domination, du pouvoir masculin et du viol, les femmes rencontrées sur le sol qu'ils foulent sont des objets à prendre. Gisèle Halimi défend l'avortement libre et la lutte contre le racisme. Aussi est-elle la seule avocate signataire en 1971 du manifeste des 343 co-écrit avec Simone de Beauvoir. Dans cet article, ces 343 femmes célèbres et connues déclarent avoir avorté illégalement. C'est un acte public de désobéissance civile, ce manifeste, publié par l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur. C'est une bombe médiatique. La même année, elle fonde avec Simone de Beauvoir, philosophe, et Jean Rostand, biologiste, le mouvement Choisir la cause des femmes, où elle milite en faveur de la dépénalisation de l'avortement, donc pour la révision de la loi scélérate de 1920, qui considère l'avortement comme un crime, les avortés et les avorteuses comme des criminels, des hors-la-loi. Choisir la cause des femmes prendra part à toutes les luttes féministes de ces années 1970, qui constituent ce qu'on appelle aujourd'hui la deuxième vague du mouvement féministe en France. En 1972, il y a 50 ans, bien longtemps avant le mouvement MeToo et Balance ton porc, elle défend devant le tribunal de Bobigny, département de la Seine-Saint-Denis, numéro 93, elle défend Marie-Claire Chevalier, jeune fille violée à 15 ans et demi et dénoncée à la police par son violeur pour s'être faite avorter, poursuivie pour cela par la justice. Avec l'aide des nombreuses et bruyantes manifestantes rassemblées à l'extérieur du tribunal, leur slogan est « Un enfant, si je veux, quand je veux », et n'hésitant pas à faire témoigner des médecins et personnalités masculines célèbres, comme entre autres le professeur Jacques Monod, prix Nobel de physiologie et de médecine, et encore Simone de Beauvoir elle-même, elle obtient la relaxe de la jeune fille, dont, entre parenthèses, le violeur, lui, n'a jamais été inquiété. Ce procès historique eut un retentissement considérable. Il eut pour effet de discréditer la loi de 1920, aussi injuste qu'aberrante. Ce qui a été jugé dans ce procès, c'est la loi au nom de laquelle comparaissaient devant le tribunal les personnes incriminées, à savoir la mère de Marie-Claire et deux amis les ayant aidés et la personne ayant pratiqué l'avortement clandestin. Après ce procès, la loi de 1920 contre l'avortement n'est plus applicable. Le débat national déclenché a contribué fortement à l'adoption par l'Assemblée nationale, 2 ans après, en 1974, de la loi dite « loi Veil ». Cette loi qui a dépénalisé l'avortement et créé l'interruption volontaire de grossesse, IVG en abrégé, tout en maintenant des conditions restrictives pour y accéder. C'était une stratégie de la part de la ministre de la Santé de l'époque, Simone Veil, pour la faire adopter par une Assemblée nationale alors presque exclusivement composée d'hommes, d'hommes jugeant sans savoir, ne pouvant pas savoir ce qu'est un avortement, ses conséquences physiques et psychologiques. Ces obstacles seront levés progressivement dans les années 1980, les derniers étant aujourd'hui la clause de conscience pour les médecins, ce qui les autorise à ne pas appliquer la loi, c'est-à-dire à ne pas pratiquer les IVG, et actuellement les difficultés d'accès dans les délais à l'IVG en raison de la fermeture progressive depuis des années dans les petites villes et les villes moyennes, des maternités de proximité où se situent généralement les lits d'IVG, et aussi la fermeture de centres d'IVG dans les grandes villes. Or, l'actualité sociale internationale nous démontre qu'en 2022, ce droit à l'IVG chèrement acquis est un peu partout dans le monde attaqué par les dirigeants des États, quel que soit le régime de ces États, le régime politique, démocratique ou pas. Alors Gisèle Halimi poursuit ensuite sa lutte pour les femmes. Elle est en avance sur son temps, car en 1977 déjà, lors d'un débat sur le viol, elle dénonce la culpabilisation de la victime et l'indulgence dont bénéficie le violeur. Elle déclare, je cite, « Une femme violée, c'est une femme cassée, c'est une femme éclatée, c'est une femme qui, à mon sens, ne s'en remettra jamais ». C'est ainsi qu'en 1978, en tant qu'avocate, elle défend devant les assises d'Aix-en-Provence deux jeunes femmes et obtient la condamnation de leurs 3 violeurs, 6 ans pour le meneur de ce viol collectif et 4 ans pour les 2 autres. Suite à ce procès, lui aussi très médiatisé, le viol est reconnu pour ce qu'il est, un crime et non plus un simple délit. Selon la loi du 23 décembre 1980, les éléments constitutifs d'un viol sont la contrainte, la menace, la violence ou la surprise. C'est, avec le féminicide, évidemment, l'une des expressions les plus brutales de la domination masculine. Alors, de 1981 à 1984, pendant quelques courtes années, dans une tentative d'action politique avec l'espoir de faire avancer la cause des femmes, elle siège à l'Assemblée nationale en tant que députée. Mais jugeant son action entravée, trop lente, fortement déçue, elle démissionne en 1984, dénonçant en l'Assemblée nationale un bastion de la misogynie. C'est pourquoi elle milite pour une présence massive des femmes en politique. Elle est aussi abolitionniste de la prostitution. Interpréter le slogan Mon corps m'appartient, des féministes des années 1970, comme étant le droit de le vendre, est un non-sens, dit-elle, et la négation parfaite, je cite, de la misère, du déracinement, de l'inculture, ainsi que des méfaits de la mondialisation marchande, qui sont, on le sait, le terreau du système prostitutionnel. Donc en 2010, logique et cohérente, elle s'oppose à la location des ventres de femmes, c'est-à-dire à la légalisation de la gestation pour autrui, GPA, en abrégé, ou mère porteuse, comme on dit couramment, et elle persiste en 2011. Donc en conclusion, on dira que, avocate, elle n'a jamais cessé d'utiliser le droit comme instrument pour combattre l'injustice et acquérir l'égalité entre les femmes et les hommes. Sa vie entière fut un combat sans relâche, malgré les propos injurieux et les menaces de mort que lui ont valu son engagement et les causes qu'elle défendait. Je suis encore surprise que les injustices faites aux femmes ne suscitent pas une révolte générale, disait-elle en septembre 2019. À la fin de sa vie, en 2020, elle a encore la force d'être en colère contre l'impunité persistante consentie par notre société aux harceleurs et violeurs de tous bords et la fragilisation des droits durement acquis, comme l'IVG par exemple. Alors son obstination, la cohérence de son raisonnement, sa persévérance dans l'action, les résultats obtenus font qu'elle est, pour l'éternité, entrée dans notre matrimoine. Je cite mes sources, le livre « 100 ans de combat pour la liberté des femmes » par Frédéric Agnès et Isabelle Lefort, édition Flammarion 2014, « Dictionnaire intime des femmes » de Laura Adler, édition Stock 2017, que j'ai déjà cité, « La révolution féministe » d'Aurore Koechlin, édition Amsterdam 2019, le téléfilm « Le viol » d'Alain Tasma, 2017, le téléfilm « Le procès de Bobigny » de François Luciani, 2006, le néo-féminisme de Simone de Beauvoir de Jacques J. Zéphir, édition de Noël Gontier, 1982. Gisèle Halimi a écrit aussi des livres. Elle a écrit « Djamila Boupacha » avec Simone de Beauvoir, 1962, « Choisir la cause des femmes, viol, compte-rendu intégral des débats du procès d'Aix-en-Provence », édition Gallimard, 1978. Et puis celui qu'il faut lire, « Ne vous résignez jamais », édition Plomb, 2009. Et « Une farouche liberté » avec Annick Cogent, « Un appel posthume à la relève », édition Grasset, 2020. Alors, il y a des rues et des structures qui portent son nom. À Aubervilliers, un collège, en 2018, à Besançon, une rue. À Paris, une promenade sur la rive gauche de la Seine, inaugurée le 31 août 2021. À Saint-Vallier, une école aussi, inaugurée le 20 novembre 2021. À Rouen, une station de tramway renommée Palais de Justice Gisèle Halimi, le 17 décembre 2021.
Il semblerait qu'il y ait du progrès, alors, pour donner enfin des noms de femmes importantes de notre matrimoine.
Oui, il y a quelques progrès, bien sûr, mais il faut continuer, parce que l'équilibre n'est toujours pas acquis, il est loin d'être acquis. Mais, bien sûr, continuons.
Merci Jacqueline, à la semaine prochaine.
Merci, à la semaine prochaine.
Au revoir.